l'homme de douleur et les hommes de douleur. Le chrétien dans l'affliction est directement appelé de Dieu à méditer sur la place que l'affliction occupe dans les plans de la rédemption divine, dans le développement du règne de Dieu sur la terre et dans la révélation des saintes Écritures. C'est alors qu'il comprend cette parole simple et profonde tout à la fois. Ne vous étonnez point comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ce qui serait extraordinaire, c'est que nous puissions être mûris pour la vie éternelle, et plus particulièrement qu'un serviteur de Dieu puisse voir béni dans son œuvre, je ne dis pas seulement sans affliction, mais sans une grande mesure d'affliction. C'est par beaucoup d'affliction qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Cette doctrine nous est d'abord clairement révélée en celui-même dont nous célébrons en ce moment le sacrifice, puisque nous ne devons qu'à ses douleurs et à ce sacrifice de posséder la vie éternelle. Le Sauveur a été un homme de douleur sachant ce que c'est que la langueur. Non pas seulement un homme de douleur, mais l'homme de douleur, en qui toutes les douleurs se trouvent réunies et qui a souffert ce que jamais homme ne pourra ni souffrir ni même concevoir. Mais tel maître, tel disciple, et les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ ont été, je parle plus spécialement de ces organes inspirés dans lesquels le Seigneur s'est plus particulièrement manifesté et comme reproduit. Ils ont été, dis-je, une série d'hommes de douleur, depuis Abel jusqu'à saint Paul et saint Jean. Cela ne frappe pas suffisamment à une étude superficielle de l'Écriture, mais lorsqu'on pénètre quelque peu dans l'étude de la parole de Dieu, on en est de plus en plus frappé. Les apôtres, les prophètes, nous sont présentés partout dans l'Écriture comme des hommes de douleur, et de douleur plus grande que nous ne savons et que nous ne voyons, car l'Écriture nous laisse plus entrevoir qu'elle ne nous montre. Pour nous montrer ce qu'ont souffert ces hommes de Dieu, il aurait fallu qu'elle nous racontât en détail l'histoire de leur vie. Les apôtres. Il y en a un seul d'entre eux dont la vie nous est rapportée avec quelques développements, mais c'est un homme dont Dieu a défini le ministère par ses douleurs, puisqu'il a dit en l'appelant « Je lui montrerai combien il aura à souffrir pour mon nom ». Si nous suivons saint Paul dans le cours de sa vie, nous trouvons qu'elle n'est, depuis le commencement jusqu'à la fin, qu'une vie de douleurs extérieures et intérieures. Écoutez ce qu'il en dit lui-même dans les derniers versets du chapitre 11 de la seconde épître aux Corinthiens. « Sont-ils ministres de Christ ? Je parle comme un imprudent, je le suis bien plus qu'eux, en travaux davantage, en blessures plus qu'eux, en prison davantage, en danger de mort plusieurs fois. J'ai reçu des Juifs 5 fois 40 coups moins 1, j'ai été battu de verge 3 fois, j'ai été lapidé 1 fois, j'ai fait naufrage 3 fois, j'ai passé un jour et une nuit dans la profonde mer. » En voyage souvent, en péril des fleuves, en péril des brigands, en péril de ma nation, en péril des gentils, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril en mer, en péril parmi de faux frères, en peine et en travail, en veille souvent, en faim et en soif, en jeûne souvent, dans le froid et dans la nudité. Outre les choses de dehors, ce qui me tient assiégé tous les jours, c'est le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est-ce qui est affaibli que je ne sois aussi affaibli? Qui est-ce qui est scandalisé que je ne sois aussi comme brûlé? Pesez chaque détail en particulier. Quel tableau! Quelle vie extérieure et intérieure! Voyez la mesure de sa charité dans la mesure de ses douleurs. Les prophètes. Prenez pour un exemple de patience, dit saint Jacques, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et si nous étudions avec quelque attention la vie des prophètes, surtout de ceux dont nous connaissons un peu moins parfaitement l'histoire, nous trouverons cette déclaration exactement réalisée. Pour Jérémie, par exemple, l'un des prophètes dont nous connaissons quelques traits. Mais de tous les prophètes, celui qui nous est le plus connu, c'est David, dont l'histoire nous est rapportée avec le plus de développement. Avez-vous jamais réfléchi aux douleurs dont la vie de David a été remplie ? Si vous prenez sa vie telle qu'elle nous est rapportée dans le premier et le second livre de Samuel, et aussi dans les Rois et dans les Chroniques, vous n'en connaîtrez rien. Vous voyez dans David un homme qui, dans les commencements de sa vie, a été poursuivi par Saül. Il a eu beaucoup d'ennemis, mais après tout, il a triomphé de Saül et il a hérité d'une grande gloire. Cet homme, ensuite, vous le voyez profondément affligé et abattu au sein de sa famille par une juste suite de ses péchés. Mais vous le voyez aussi consolé et soutenu abondamment de Dieu, qui, jusque dans ses châtiments les plus redoutables, se souvient encore de ses promesses envers David et de sa miséricorde pour lui. C'est une vie dans laquelle nous trouvons beaucoup d'épreuves et d'agitations. Mais enfin, cela ne nous donne pas l'idée des douleurs de David. Il faut lire les psaumes pour connaître les douleurs de David. Les psaumes nous révèlent l'homme intérieur de David, et dans l'homme intérieur de David, il nous révèle en quelque sorte l'homme intérieur de tous les prophètes de Dieu. Eh bien, les psaumes sont tout remplis d'expressions d'une douleur inouïe. David y parle sans cesse de ses maux, de ses maladies, de ses ennemis sans nombre. On a peine à comprendre en les lisant ce qu'il entend par ses ennemis dont il parle sans cesse. Mais il nous révèle, du moins, un intérieur d'affliction dont, avec la seule histoire de David dans les mains, nous ne nous serions jamais doutés. C'est une des grandes utilités des psaumes. Lisez le psaume 38 et pesez chaque trait de ce psaume 38. « Éternel, ne me reprends point en ta colère, et ne me châtie point en ta fureur, car tes flèches sont entrées en moi, et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien d'entier en ma chair, à cause de ton indignation, ni de repos dans mes os, à cause de mon péché. Car mes iniquités ont surmonté ma tête, elles se sont appesanties comme un pesant fardeau au-delà de mes forces. Mes plaies sont pourries et coulent à cause de ma folie. Je suis courbé et penché au dernier point. Je marche en deuil tout le jour, car mes reins sont remplis d'inflammation, et dans ma chair il n'y a rien d'entier. Je suis affaibli et tout brisé. Je rugis du grand frémissement de mon cœur. Seigneur, tout mon désir est devant toi, et mon gémissement ne t'est point caché. Mon cœur est agité, ça et là. Ma force m'a abandonné, et la clarté aussi de mes yeux. Même ils ne sont plus avec moi. Ceux qui m'aiment, et même mes intimes amis, se tiennent loin de ma plaie, et mes proches se tiennent loin de moi. Et ceux qui cherchent ma vie m'ont tendu des filets, et ceux qui cherchent ma perte parlent de calamité et songent des tromperies tout le jour. Mais moi, je n'entends non plus qu'un sourd, et je suis comme un muet qui n'ouvre point la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend point et qui n'a point de réplique en sa bouche, puisque je me suis attendu à toi. Ô Éternel, tu me répondras, Seigneur mon Dieu, car j'ai dit, il faut prendre garde qu'il ne triomphe de moi. Quand mon pied glisse, il s'élève contre moi. Quand je suis prêt à clocher et que ma douleur est continuellement devant moi, quand je déclare mon iniquité et que je suis en peine pour mon péché. Cependant, mes ennemis qui sont vivants se renforcent, et ceux qui me haïssent à tort se multiplient, et ceux qui me rendent le mal pour le bien me sont contraires, parce que je recherche le bien. Éternel, ne m'abandonne point, mon Dieu, ne t'éloigne point de moi. Hâte-toi de venir à mon secours, Seigneur qui est ma délivrance. » Des ennemis innombrables qui le pressent, le sentiment de ses péchés qui l'accablent, cette complication de maladie, il est frappé par les yeux dont il perd la lumière, ses reins sont enflammés, son corps est courbé tellement qu'il a peine à marcher, ses plaies coulent et répandent une odeur fétide. Voilà David dans ce psaume. Mais si vous lisez le psaume 6, si vous lisez le psaume 69, si vous lisez une quantité de psaumes, vous le trouvez dans une affliction semblable. C'est véritablement un homme accablé de douleur. Il ne faut pas dire que David, ayant été un type de Jésus-Christ, ses douleurs ne s'appliquent qu'au Messie. Sans doute, les douleurs de David ont été un type de celles de Jésus-Christ, mais elles n'ont pu être un type des douleurs du Messie que parce qu'elles étaient des douleurs. Et c'est précisément parce que David était un homme de douleur qu'il a été un type de l'homme de douleur. Mais, mes chers amis, en resterons-nous là? Après avoir reconnu que les apôtres et les prophètes ont été des hommes de douleur, resterons-nous sur cette triste pensée de la douleur? Ce ne sont pas seulement des hommes de douleur, mais ce sont des hommes qui ont vaincu la douleur. et qui ont fait servir leur douleur à la gloire de Dieu. Jésus-Christ, à la tête des siens, triomphe de la douleur et poursuit sa mission de charité jusque dans les angoisses les plus cruelles. En Gethsémané, nous l'entendons exhorter ses disciples et conserver, quand il s'agit de remplir son message d'amour auprès d'eux, toute sa liberté d'esprit. Il en est de même sur la croix, où il ne manque pas une occasion de donner à ses disciples, au peuple, à Jean, à Marie, à tous, des leçons de vie éternelle jusqu'à la fin de son affreuse agonie. C'est l'homme de douleur triomphant de la douleur pour accomplir dans ses douleurs et par ses douleurs sa mission. Il en est de même de ses disciples, il en est de même de ses apôtres. Quel usage saint Paul fait-il de ses douleurs? Il les rapporte toutes à la gloire de Dieu. Il n'est point accablé par ses douleurs, comme nous le sommes si facilement. Il en triomphe par la charité de Christ et il les fait toutes servir à l'avancement du règne de Dieu avec une fidélité merveilleuse. Et David, sur qui je me suis arrêté plus spécialement, avez-vous remarqué comment il triomphe de ses douleurs pour faire son œuvre? L'objet capital de la mission que David a reçue de Dieu, pour toutes les générations dans l'Église, c'est la composition des psaumes. Eh bien, il compose ces psaumes, ou une grande partie d'entre eux, au milieu des douleurs les plus cruelles. Figurez-vous qu'accablé par la souffrance physique, morale et spirituelle, vous soyez appelé à composer un psaume, et que du sein de toutes ces souffrances, et dans le moment même où elles sont telles qu'il les décrit dans le psaume 38, sortent des hymnes à la gloire de Dieu et pour l'instruction de l'Église. Quel triomphe David remporte sur lui-même, et quelle humiliation pour nous, qui, dans notre faiblesse, sommes obligés le plus souvent d'attendre que nos douleurs soient passées pour en pouvoir recueillir le fruit et le faire recueillir aux autres. Mais David, dans ses douleurs, écrit ses psaumes. Il écrit son psaume 38 pendant qu'il souffre ses persécutions, ses tourments intérieurs, cette amertume du péché. Je sais qu'on pourrait dire que David a écrit son psaume 38 à froid, en se transportant dans des douleurs où il n'est plus comme le poète se transporte dans des douleurs où il n'a jamais été. Mais non, cette supposition vous répugne autant qu'à moi. C'est dans la fournaise, c'est du sein de la fournaise qu'il a écrit ces lignes qui doivent servir à l'encouragement de l'Église dans tous les temps. Ô puissance de la charité de Christ, ô renoncement de la volonté propre, ô grâce du véritable serviteur de Dieu, ô vertu de l'apôtre et vertu du prophète, vertu de Christ en eux et du Saint-Esprit. Car jamais l'homme ne serait capable d'une telle puissance de volonté et d'un tel triomphe sur la chair. Mes chers amis, je laisse à chacun de vous l'application. Elle se fait en deux questions. Sommes-nous des hommes de douleur, et dans quelle mesure avons-nous part aux afflictions de Christ? Quand nous avons part aux afflictions de Christ, savons-nous en triompher pour rapporter, par la puissance de l'amour, nos afflictions à la gloire de Dieu, au bien du prochain et de nos frères, en même temps qu'elle travaille aussi d'autant plus à nous sanctifier, à nous nourrir et à ramasser pour nous le trésor d'une gloire excellente.